franceinter.fr.
Pourquoi manger moins permettrait vraiment de vivre plus vieux? C'est une question qui titille les chercheurs depuis un moment et qui trouve un début de réponse à la une de la science aujourd'hui.
Ça manque de sangliers et de cervoises ici. Quand l'appétit va, tout va. Pour la santé, il n'y a que ça. Et puis les saucisses et le pain d'épices. Quand l'appétit va, tout va.
Voilà, et depuis un moment déjà, les études en laboratoire montrent que des souris qui mangent moins vivent plus longtemps que les autres. Les preuves existent aussi chez le singe. Aujourd'hui, des chercheurs américains proposent une explication à ce mystère. Axel, pour en parler, nous recevons aujourd'hui le biologiste Pierre-Antoine Defossé.
Bonjour à vous, Pierre-Antoine Defossé.
Bonjour.
Vous êtes biologiste moléculaire, directeur de recherche au CNRS, spécialiste de l'épigénétique. Alors, ça fait combien de temps que ce lien entre la quantité de nourriture ingérée et la longévité est établi chez le rongeur, en tout cas?
Donc, ce sont des observations qui sont déjà assez anciennes, qui ont presque un siècle. Donc, dans les années 20 et les années 30, on savait déjà que des souris qui mangent moins que leurs frères et sœurs vivent plus longtemps.
De combien en moyenne ?
Ce sont des effets qui sont vraiment significatifs, donc des allongements d'une vingtaine de pourcents de la durée de vie. Donc, ce qui, à l'échelle d'une vie humaine, ce serait par exemple 15 ou 20 ans.
Ouais, on peut extrapoler comme ça, vraiment, entre la durée de vie en plus d'une souris et le stade humain ?
Oui.
Et en quoi ces questions de restriction calorique ont un lien aujourd'hui, et c'est ce qu'on découvre avec ce travail, avec la génétique et avec notre ADN?
Donc encore une fois, l'observation est assez ancienne, que la restriction calorique a un effet positif sur la durée de vie, que c'est vrai chez beaucoup d'espèces, donc des mammifères, mais aussi beaucoup d'autres espèces. La question qui a été d'intérêt pour la recherche, c'est de comprendre moléculairement comment ça se passe, donc comment expliquer cette observation. Donc il y a vraisemblablement différents processus, mais l'un d'eux repose notamment sur l'effet de notre nourriture sur notre génome et sur l'épigénome.
Alors, le génome, on voit à peu près ce que c'est notre ADN. Qu'est-ce que c'est l'épigénome?
Alors, donc, l'épigénome, c'est un ensemble de marques, en fait, qui est posé sur l'ADN. Alors, si on peut utiliser une image dans laquelle le génome, ce serait un grand texte, un grand livre, et sur ce texte, il peut y avoir des marques, par exemple, des passages qui sont passés au stabilo ou qui sont soulignés ou sur lesquels on a fait une petite marque de bas de page. Et donc, l'épigénome, c'est l'ensemble de ces marques qui sont sur le génome et qui permettent aux cellules de savoir que telle partie du génome doit être utilisée dans telle condition ou non utilisée.
Et le vieillissement a un impact sur ces marques dont vous parlez, ces notes ?
Tout à fait. Donc, ce qu'on a observé depuis une dizaine d'années, c'est que ces marques, d'abord, on peut les cartographier. Il existe un ensemble de techniques qui permettent une bonne cartographie des marques épigénétiques. Et on voit que, au cours de l'âge, en fait, ces marques ont tendance à devenir moins précises. C'est-à-dire que si on compare un centenaire à un enfant, on voit que les marques du centenaire sont différentes de l'enfant. Et donc, au cours du temps, ces marques, elles ont effectivement tendance à s'estomper. Pour reprendre l'image qu'on utilisait tout à l'heure, c'est un peu comme si le stabilo s'effaçait ou au contraire, comme si l'encre bavait un peu et allait marquer des passages qui n'étaient pas marqués initialement.
Et ça veut dire que la quantité de nourriture ingérée influence tout cet environnement épigénétique là que vous décrivez ?
Absolument. Donc il y a deux choses. Il y a d'une part la quantité, il y a aussi la nature de la nourriture ingérée.
La qualité intrinsèque
exactement,
de la nourriture.
Exactement. C'est-à-dire le pourcentage de lipides, des choses comme ça, par exemple.
Et comment ces chercheurs de l'université Temple en Californie en arrivent à cette découverte ? Quelle a été leur démarche pour faire ça ?
Donc c'est comme souvent dans la recherche, ça se base sur leurs compétences et leur historique de recherche. Donc c'est une équipe qui est tout à fait reconnue et qui publie d'ailleurs dans un journal renommé et depuis longtemps s'attache à cartographier les marques épigénétiques, notamment chez les personnes saines, mais aussi chez les personnes atteintes de cancer, pour détecter ces anomalies et tenter de les expliquer. Et donc ils ont impliqué ce type de technique, cette fois-ci non pas à des malades, mais à des animaux plus ou moins âgés, en utilisant plusieurs modèles, notamment la souris et un modèle de singe.
Est-ce qu'on a des études aujourd'hui, justement, sur les conséquences d'une prise de nourriture sur une pathologie? On a des travaux là-dessus intéressants, parce qu'après tout, c'est ce qu'on mange qui nous constitue
tout
principalement.
À tout à
Ça
fait.
Ça paraît être idiot de le dire, mais c'est vrai.
Alors, c'est tout à fait juste. Et donc, encore une fois, il y a une littérature assez dense et riche et intéressante sur la restriction calorique. calorique, qui montre qu'en diminuant le nombre de calories, tout en respectant un équilibre et tout en évitant les carences de vitamines et d'oligo-éléments, etc., il y a un ensemble de conséquences bénéfiques vis-à-vis des maladies. Donc, évidemment, moins de diabète, mais aussi d'autres maladies.
Professeur Amouyel, on va peut-être en parler avec vous, parce qu'il y a aussi des pistes de recherche dans ce domaine avec la maladie d'Alzheimer, très concrètement, sur le régime alimentaire.
Très concrètement, parmi ce qu'évoquait M. Boller il y a quelques instants, des actions comme des régimes, très précis, en particulier le régime méditerranéen ou crétois, ont un effet sur le retard à l'apparition des signes.
Donc ça, c'est bien étayé dans la littérature scientifique.
C'est bien étayé, c'est parmi les éléments qui sont les mieux étayés actuellement,
Mais au final, le fait que l'alimentation influence notre santé, l'espérance de vie, c'est des choses qu'on savait. Qu'est-ce qui est vraiment nouveau dans ce travail sur la restriction en particulier ?
Donc il y a deux choses. Je pense que ça permet d'une part, encore une fois, de comprendre mieux cette observation qui est déjà ancienne. Maintenant, donc, on comprend que une des façons par laquelle la restriction calorique agit sur le vieillissement, c'est vraisemblablement par l'intermédiaire de ces marques épigénétiques. Et le fait qu'on comprenne mieux, ça offre des perspectives vraiment intéressantes, notamment médicamenteuses, pour essayer de voir si on peut développer des molécules qui vont reproduire les effets bénéfiques de la restriction calorique sans avoir nécessairement ces aspects contraignants.
Est-ce que... Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Pourquoi pas se restreindre directement plutôt que de prendre des médicaments qui agiraient comme la restriction ?
Exactement.
Vous trouvez que le médicament, c'est plus efficace ?
Je ne sais pas si ce serait plus efficace, mais je pense qu'effectivement, il y a toute la population n'est pas forcément prête à subir une restriction calorique.
Certes, professeur Amouyel.
En effet, le problème actuellement des populations dites développées, des populations qui se développent, c'est le surpoids.
Oui, absolument. Oui. Exactement le contraire.
Une dernière question. Est-ce qu'il y a des ponts avec les recherches sur le microbiote, puisque le point central de tout ça, c'est l'alimentation et ça se passe dans notre intestin ?
Absolument. Et donc, je pense que le microbiote, c'est un autre domaine de recherche qui est extrêmement actif. Et puisqu'on a compris au cours de la dernière décennie que le microbiote et notamment les micro-organismes qu'on a dans le tube digestif ont un effet vraiment crucial sur notre santé. Et donc, c'est tout à fait possible qu'à régime alimentaire égal, un microbiote différent ait des effets différents chez différentes personnes avec des conséquences sur la durée de vie.
Bon, un petit conseil à nous donner avant de partir. on a compris le message finalement.
Voilà, donc pas de sucre dans votre café à la pause.
Ah ben voilà, c'est au moins le conseil qu'on retiendra aujourd'hui. Merci beaucoup à vous, Pierre-Antoine Defossé, d'être venu dans notre studio. Et puis Axel, on se retrouve bien sûr demain.
À demain, Mathieu.
Une nouvelle une. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité des sciences, maintenir le réchauffement climatique en dessous d'un degré 5, eh bien, c'est encore possible. C'est l'objectif qui avait été fixé par les accords de Paris à l'issue de la COP21. Eh bien, la bonne nouvelle vient d'une équipe de recherche internationale. D'après leurs analyses, l'ampleur du réchauffement climatique qui a déjà eu lieu a été surestimée. La quantité de carbone que l'humanité peut émettre à partir de 2015 en restant en dessous de ce seuil de 1,5 serait trois fois supérieure à ce qui avait été annoncé. Les récents pronostics jugeaient l'objectif des 1,5 impossible à atteindre désormais, d'après l'un des auteurs, ce sera juste très, très difficile. Si vous commencez à prendre de l'âge et donc à tendre de plus en plus l'oreille, vous avez de quoi envier les hiboux. En effet, ces animaux n'ont aucune perte d'audition à l'âge, contrairement aux mammifères, et les organes internes de leurs oreilles se régénèrent tout au long de leur vie. Une découverte faite grâce à des expériences menées sur les hiboux, mais qui pourrait être vraie pour tous les oiseaux. Une analyse plus fine des mécanismes biologiques de cette régénération pourrait mener à l'élaboration de traitements pour l'homme. Et puis, si vous êtes parisien et habitué du métro, vous êtes peut-être déjà poser cette question. Quel trajet serait le plus court pour emprunter toutes les lignes les unes après les autres ? Et puis, bien sûr, des chercheurs ont étudié la question et ils ont la réponse. Le trajet théorique le plus court compte 26 étapes. Part de la station Émile Zola sur la ligne 10, se finit à Saint-Fargo sur la ligne 3 bis. Si on ajoute les 5 lignes du RER au problème, le nombre d'étapes d'ailleurs ne change pas. Mais en revanche, il vous faudra cette fois partir de Picpus sur la ligne 6. Les chercheurs ont également calculé le chemin le plus court pour faire une boucle en passant par toutes les stations. Un challenge mathématique complexe que certains d'ailleurs ont déjà relevé en vrai. Un certain Adam Fischer en 2011 avait parcouru les 302 stations du métro parisien en 13h37 minutes et 54 secondes.